à Merkel sur la crise, alors je ne sais pas si on doit dire la crise des migrants, plutôt la crise migratoire ou la crise des mobilités contemporaines, et la façon dont aussi aujourd'hui un écrivain peut regarder, s'intéresser, mettre en scène et peut-être mettre au jour les destins et les parcours individuels de ces personnes qui sont en exil, qui sont sur la route. Peut-être une question avec vous, Christine, parce que je parlais de moments charnières, et peut-être qu'on peut commencer par là, puisque évidemment, on a parlé beaucoup de l'histoire depuis ce matin, et de la façon dont un romancier s'attache à un moment en particulier, la façon dont un romancier s'arrête à un événement et a envie d'en faire finalement le matériau d'un roman. Là, la chute du mur, il y a quelque chose qui est à la fois, je le disais, hein, une mutation personnelle pour les gens qui y vivent, les familles séparées, etc., etc. Et puis, bien sûr, cette date qui a été une date à la fois très importante pour l'histoire de l'Allemagne, pour l'histoire du monde, et qui est une date dont tout le monde se souvient d'une certaine manière, c'est-à-dire que les gens qui étaient vivants à ce moment-là se souviennent où ils étaient, comme on se souvient du 11 septembre 2001 ou d'autres. Donc c'est à la fois un mythe, finalement, historique, et en même temps quelque chose que tout le monde a l'impression de connaître assez bien. C'était peut-être ces enjeux-là que vous aviez au début de l'écriture du livre ?
Écoutez, pour moi, c'était surtout un élément biographique, parce que moi, je suis franco-allemande, donc j'ai de la famille à la fois française et allemande, et en Allemagne, des deux côtés du mur. Et j'ai grandi vraiment au bord du mur, à l'ouest, évidemment, sinon je ne serais pas là. Et pour moi, c'était quelque chose de... Cette division de l'Allemagne et de l'Europe et du monde était quelque chose de très tangible, parce que quand j'étais l'été chez ma grand-mère au bord de la plage, sur la mer Baltique, il y avait en face des miradors, parce que la baie était coupée en deux, la baie de Lübeck, pour ceux qui connaissent. C'est aussi la scène finale de Trois jours à Berlin. Et c'est vrai que pour moi, cette division devait durer plus longtemps que ma propre vie. Enfin, c'était quelque chose qui avait l'air tellement ancré, tellement solide, cette haine, cet affrontement idéologique, lorsqu'on allait en RDA, mais allait assez souvent d'y aller, et pas seulement à Berlin-Est, parce que je suis allée aussi jusque dans la campagne du Mecklembourg voir ses cousins qui étaient de l'autre côté lorsque j'étais étudiante en sciences politiques, donc je voulais aller voir ce que c'était, ainsi que tous les pays de l'Est. On avait l'impression qu'on était vraiment pas bienvenus, qu'on était vus comme des gens tout à fait des ennemis. Donc la guerre était encore là, vraiment la guerre froide. J'ai senti vraiment dans ma vie cette guerre froide. Et en 89, alors il se passait plein de choses. C'est vrai que il se passait plein de choses, mais pour autant, on ne pensait pas que ça allait aller si vite. Et je pense que personne ne peut dire qu'il l'a prévu. C'était quelque chose. Encore un mois avant, j'étais à Berlin-Est, rencontrer une de mes cousines. Et elle me disait en partant, mais peut-être dans 20 ans, je serai devant ta porte. Moi, je pensais, même pas dans 100 ans, c'est pas possible. Alors que c'est vrai que la Hongrie commençait à entrouvrir ses frontières, mais le régime était vraiment extrêmement ancré. Alors, pour moi, le 9 novembre, ça a été quelque chose de vraiment une césure incroyable dans ma vie. Et non seulement j'avais envie de raconter cette division, en fait, qui précède la réunification et ce moment de fraternité finalement retrouvée, de ces retrouvailles, mais aussi la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est un gigantesque acte manqué, quelque chose qui n'a été décidé par personne. Et c'est surtout cette ruse de l'histoire finalement qui m'a intéressée.
Oui, on peut y revenir peut-être sur cette idée du dès maintenant, ou en tout cas de ce cafouillage qui a fait naître aussi un des événements les plus importants de la fin du XXe.
Exactement. C'est quelque chose qui m'a fascinée parce que, en général, un événement historique majeur est précédé par une décision. Quelqu'un déclare une guerre. Alors que là, c'est un enchaînement, une sorte de glissement à partir d'un gigantesque cafouillage ou acte manqué, d'un porte-parole qui ne lit pas, qui lit pour la première fois une déclaration dans une langue de bois. Et qui à une question répond de manière improvisée, et c'est ce mot, oui, ça va s'appliquer immédiatement, qui met à bas toute une bureaucratie, tout un système qui n'était pas préparé à cela. Et finalement, le personnage principal aussi, c'est le peuple, parce que les gens qui ont peur dans ce régime, ils vont finalement à la frontière en se disant « mais si c'est quand même quelqu'un du Politburo qui a annoncé qu'on va pouvoir sortir, il doit y avoir quelque chose de vrai ». Et donc là, il y a un moment qui, pour moi, était aussi un enjeu de narration extrêmement complexe, c'était de raconter comment, dans cette foule, tous ces gens qui vont de nuit, comme ça, un soir de novembre, il pleut, il commence à faire froid, ils vont à la frontière et la peur se mue en espoir. Ça, c'est un moment très étonnant. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter.
Peut-être encore une chose avant de passer à Alexandre, sur cette idée aussi de la foule, il y a aussi un parti pris narratif qui est de mettre en place un certain nombre de personnages qui ont des parcours personnels divers par rapport à la RDA, par rapport à la RFA, même par rapport à la France ou des gens qui viennent d'ailleurs. Et finalement, on a l'impression que ces différents personnages, ils sont comme des facettes d'un kaléidoscope, c'est-à-dire que c'est chacun qui, à un moment donné, porte aussi un regard singulier, une histoire singulière par rapport à cet événement collectif. Le roman, il permet ça aussi, finalement, de mettre en jeu cette diversité de points de vue ou d'histoire par rapport à un moment collectif.
Oui, la littérature permet cette grande liberté. J'avais auparavant publié un livre d'entretien avec le premier chef de gouvernement librement élu de la RDA, qui s'appelle Lothar de Mézières, donc une proximité de nom, puisqu'il était issu d'une famille huguenote qui avait fui la France de Louis XIV plusieurs siècles avant. Et donc je connaissais bien l'histoire factuelle, historique, et j'avais vu un point de vue, en fait, alors que j'avais envie de raconter les mille et une facettes, en fait. Les gens ont vécu ça de manière très différente. Ensuite, que ce soit en RFA ou en RDA, il y a eu beaucoup, beaucoup de perceptions différentes. En RDA, il y avait ceux qui croyaient encore dans le régime, il y avait ceux qui n'avaient qu'une envie, c'était de partir. Et il y a énormément, évidemment, de conflits. C'était une société d'espionnage, de chantage moral. Donc il y avait beaucoup je mets en scène aussi un certain nombre de conflits de génération, père-fils, etc., de trahison. Et je trouvais que finalement j'avais opté pour une unité de temps et de lieu, 3 jours à Berlin, tout est dans le titre, et je pouvais donc me permettre un petit peu de fantaisie dans la construction et le nombre de narrateurs, puisqu'il y en a une quinzaine, et qui se succèdent dans des chapitres très très courts pour que le lecteur ne soit pas trop perdu quand même, que ce soit une sorte de carrousel, mais je voulais embrasser finalement des points de vue extrêmement variés. Voilà, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, j'ai voulu me mettre dans la peau de ces différentes destinées et qui ne savent d'ailleurs pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils participent finalement à un événement historique de première ampleur, mais ils le vivent avec leur histoire propre, leur trip.
On va revenir sur certains d'entre eux, on ne pourra pas faire le tour de tous les personnages. Alexandre, peut-être une même question, alors je ne sais pas s'il y a pour vous une dimension biographique, personnelle, dans le choix de de cet événement, ou dans la manière dont vous avez envisagé ce personnage, je le disais, berger de Lozère, qui va combattre pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il n'en est pas obligé, hein, d'ailleurs, mort comme ça, effectivement, en 1918, le jour de l'armistice, qui est presque finalement une sorte de symbole aussi de l'absurdité de la guerre. Enfin, on pourrait presque dire les choses aussi simplement. Et en même temps, il y a une histoire, il y a une famille, il y a un destin. Peut-être nous dire comment est-ce que vous êtes venu à lui, comment est-ce que finalement le choix de ce personnage s'est fait pour ce livre.
En fait, j'ai découvert Augustin Tribuchon 10 ans avant. En tant que journaliste, j'ai écrit un petit article sur lui. Je travaillais au Journal du Dimanche à l'époque, j'étais reporter, et donc je faisais beaucoup d'articles, notamment sur l'histoire. Et j'avais lu dans le Pèlerin Magazine, je crois, un grand dossier sur cet homme dont je connaissais rien. Et bon, le journalisme, c'est quand même beaucoup, on refait ce que d'autres ont fait avant nous. Donc je suis allé à mon tour dans les Ardennes, là où il est mort et enterré, pour faire un article assez court en signe, on parle en signe, en journalisme ou en écriture, ça faisait 4500 signes, donc c'était vraiment un petit article. Et puis, cette histoire, elle m'avait beaucoup touché, et j'ai gardé, d'habitude, moi, je suis plutôt du genre à jeter mes documents, mes dossiers, et là, je l'ai gardé, la pochette. Et C'était pour les 90 ans de sa mort à ce moment-là. Et du coup, après, moi, j'ai discuté avec une maison d'édition, donc chez Lattès, 10 ans plus tard quasiment, en leur disant, il y a cette histoire-là d'un homme assez incroyable. Il est engagé volontaire en 14, il a 36 ans, il est à la tête d'une fratrie d'orphelins, donc il est dispensé d'aller à la guerre, il y va quand même. Il fait toute la Première Guerre mondiale, y compris Verdun. Il est agent de liaison, donc il passe 4 ans à envoyer des messages, à porter des messages d'un bout à l'autre, en traversant les champs de bataille, etc. Il est blessé une fois. Et il meurt le dernier des 1,3 million de soldats français tués pendant la Première Guerre mondiale. Et cette histoire, en fait, elle m'a touché. Mais en fait, c'est ce que vous avez dit, c'est absolument ça. Son destin montre l'absurdité des guerres et de celle-ci en particulier. Jusqu'à sa mort, parce que je vous spoilerai pas, comme disent les jeunes, mais le message qu'on lui demande de porter est d'une absurdité folle. Ça va lui coûter la vie. Et comme vous l'avez dit, en fait, l'armistice est signé le matin vers 5h15 du matin, le 11 novembre. Et à 9h30, là où ils se battent encore dans les Ardennes, ils reçoivent un télégramme de l'état-major en disant « à 11h, le clairon sonnera et ce sera fini », ce qui a été effectivement le cas. Et lui, à 10h30, un officier lui dit « tiens, il y a un message, un dernier, apporte-le là-bas ». Et pour être allé sur place, c'est une longue ligne droite où le train passe et d'un côté, il y a... une butte, de l'autre côté il y a une butte, donc c'est comme une sorte de petit mini ravin, on va dire, avec les Allemands posés d'un côté, les Français de l'autre, et les Allemands l'ont vu passer et l'ont tiré dessus comme un lapin. Et il meurt à la dernière 10 minutes avant que le clairon sonne. Et c'est une absurdité folle, et comme vous le dites, ça en fait un personnage de roman, du coup. Enfin, sa mort et ses 4 ans de guerre en font un personnage de roman, effectivement, alors qu'il a existé, que tout ça est vrai.
Peut-être, parce que je le disais, vous choisissez finalement de parler à la première personne pour lui, d'une certaine manière en tout cas, et pour une grande partie du livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on se rend compte que ce personnage-là, il est justement très discret, il parle très peu, il est un messager, mais un messager silencieux. Et on a l'impression finalement que le travail que vous avez fait, c'est de lui redonner une voix ou de lui redonner une parole, alors même qu'il n'en avait pas de parole dans ce contexte-là, mais pas seulement, j'ai envie de dire, c'est plutôt un taiseux. Est-ce qu'il y a cette idée-là, ce va-et-vient-là, vous, en tant qu'écrivain, d'une certaine manière, d'être son porte-parole ou de lui redonner voix?
Ah oui, absolument. Alors, en fait, pour l'anecdote, j'ai écrit d'abord ce livre à la troisième personne, il, Augustin, etc. Et quand je l'ai terminé, mon éditrice m'a dit « Mais pourquoi tu l'as écrit à la troisième personne ?» Je dis « Bah, parce que tu m'avais demandé de le faire. » Elle m'a dit « Non, pas du tout. » Je dis « Si. » « Bon, bah, ça ne marche pas. Il faut tout basculer à la première personne. » Ce que j'ai fait. Sauf que dans l'écriture, en même temps qu'il se battait, les états-majors et les politiques négociaient en forêt de Rotonde pendant 3 jours. Ils négociaient l'armistice. Et donc, moi, je faisais dans mon livre des allers-retours entre ces deux lieux. Le lieu de la bataille, le lieu de la négociation. Sauf que comme je bascule à la première personne et que c'est lui qui raconte ces 3 derniers jours de guerre, lui, en tant que petit soldat première classe, il n'en sait rien qu'il négocie. Il est au courant de rien, il le savent à peine, il y a des rumeurs qui courent, etc., mais il n'en sait rien. Donc toutes ces parties-là, je les ai enlevées de mon livre et j'ai rajouté plein d'autres choses. Et comme vous le disiez, en fait, c'est quelqu'un qui ne savait... Il n'a rien laissé. On n'a rien de lui. Sans doute ne savait-il ni lire ni écrire. En tout cas, écrire sans doute pas, lire peut-être, mais déchiffrer. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été nommé agent de liaison, parce qu'il ne risquait pas de trahir en lisant les messages qu'il portait sur lui, parce qu'il ne pouvait pas les lire. Et j'ai vraiment voulu ça. J'ai vraiment voulu donner à cet homme qui est mort dans des conditions totalement absurdes. C'est absurde jusqu'à aujourd'hui, puisque sur sa tombe dans les Ardennes, la date de mort est falsifiée. Il est gravé 10 novembre 1918, alors qu'il est mort le 11. Et j'ai bien vu des avis de décès de l'armée. D'abord, ils ont mis 13 novembre, serrature à la main, et c'est rajouté 10. Et en fait, il est mort le 11, comme une vingtaine ou une trentaine d'autres. Et même là, ça reste absurde, en fait. Pardon. Et lui redonner une voix, ça, je voulais le faire, parce que c'est un paysan, c'est un berger, et l'infanterie était composée à très, très grande majorité, voire exclusivement de paysans, de bergers, et des gens qui sont partis là-bas. Alors pour le travail, en fait, je ne sais pas si on en parlera après, mais je me suis beaucoup documenté, j'ai vu des historiens qui m'ont donné des hypothèses, et moi je les ai amalgamées, et j'ai voulu effectivement lui donner une voix, et je trouvais qu'elle avait raison, mon éditrice, ça passait mieux en fait en le faisant parler et en lui donnant cette voix qui était la mienne, la sienne, qu'on a un peu mélangée.
Elle avait sûrement raison, mais il aurait fallu qu'elle le dise tout de suite, en fait.
Oui, c'est le travail de processus d'écriture, on va dire. Mais elle aurait pu me le dire au bout de deux chapitres, on va dire, mais non pas à la fin.
Christine, peut-être sur cette idée que finalement les personnages et les vies minuscules ne comprennent pas forcément à quel événement ils participent. C'est un point commun finalement avec ce que vient de décrire Alexandre. C'était une donnée du livre aussi, c'est-à-dire d'être pour le coup de les replacer dans cet instant-là, dans ce moment où il n'y a pas forcément la connaissance d'être dans ce moment charnière et dans ce que ça représente au final.
C'était le cas non seulement de tout à chacun, mais aussi des dirigeants. C'est ça qui était incroyable, c'est que personne ne se rendait compte de ce qui se passait, et d'où le grand cafouillage. Mais effectivement, il ne faut jamais commettre d'anachronisme, et par définition, quand on est dans l'action, dans un moment, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, effectivement, c'est une envie de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, et notamment tous les anonymes qui ont quand même pris le risque d'aller à la frontière. Il y aurait pu avoir un bain de sang. C'était quand même une frontière extrêmement armée. Il y avait toute la police, la Stasi, l'armée était vraiment surarmée. Et puis il y avait 400 000 soldats soviétiques postés tout autour de Berlin. Quand même, et Berlin-Ouest était une île composée des trois zones d'occupation des alliés, donc la France, et puis les États-Unis et l'Angleterre. Et donc, c'était vraiment une situation extrêmement explosive. Il y a d'ailleurs d'autres pays de l'Europe de l'Est où ça a été sanglant, comme en Roumanie, par exemple. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu une goutte de sang versée ce 9 novembre 1989.
Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a effectivement le temps présent, c'est 3 jours, vous l'avez dit, unité de temps, mais il y a en même temps des trappes vers le passé, notamment à travers les familles, les filiations, et finalement le livre raconte aussi ça, c'est-à-dire comment est-ce que ce moment a été le résultat d'une histoire plus longue. Je pense notamment au personnage de Micha, il y a quelque chose qui se joue aussi dans le rapport au père, dans l'ancrage dans l'Allemagne communiste, c'est aussi à la fois le temps présent, mais aussi une profondeur historique que vous avez jouée, qui était importante pour mettre en jeu aussi ce moment en tant que tel.
Bien sûr, vous disiez au début que tout le monde se souvient du 9 novembre et ce qu'on faisait à ce moment-là, mais je pense que peu d'entre nous, en tout cas en France, sont conscients de ce qu'était la division de l'Allemagne auparavant. Et c'est ça que je voulais un petit peu raconter. Effectivement, il faut se mettre dans la peau de ces personnages. Alors, c'est des personnages totalement imaginés, totalement inventés, en tout cas les personnages allemands. Et je voulais effectivement mettre en scène notamment ce conflit entre le père Karl Welt, qui est membre du Politburo et qui est un ancien résistant à Hitler, donc qui a vraiment, parce que la RDA est née de la guerre, la RDA et la RFA, cette division est un produit évidemment de la Deuxième Guerre mondiale, et donc raconter un petit peu cette histoire-là aussi, pourquoi il y avait deux Allemagnes finalement qui ne tenaient que par un affrontement idéologique. C'était aussi deux pays occupés, puisque l'Allemagne n'a signé son traité de paix que le 3 octobre 90. Hein, jusque-là, l'Allemagne était, les deux Allemagnes étaient en état de guerre. On vient de fêter les 30 ans de cette, ce qui est aujourd'hui la fête nationale allemande, donc le 3 octobre dernier. Il a fallu que le 12 septembre 1990, un traité de paix soit signé, à Moscou d'ailleurs, entre les quatre anciens alliés et les deux Allemagnes. Donc c'était en 90, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et c'est, voilà, c'était cet état de guerre dans lequel vivait l'Allemagne qui était sur le front, en fait, qui était vraiment sur le front de cette guerre froide, mais aussi toute l'Europe. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était que, justement, derrière ce qu'on appelle le rideau de fer, le mur, finalement, pour nous, c'était une terre inconnue, et on ne s'en préoccupait pas. Enfin, c'est vrai qu'on se disait, bon, ben, on ne les connaît pas, et quelque part, on ne s'intéresse pas à eux. Mais aussi en Allemagne, c'est vrai que mes cousins de l'Ouest ne s'intéressaient pas du tout aux cousins de l'Est. On trouvait que, bon, ben, on ne peut pas les voir, on ne les connaît pas, ben, c'est comme ça. Et peut-être parce que moi, j'étais un peu plus éloignée, parce que je vivais en France, que je m'y suis intéressée aussi, en me disant, mais de l'autre côté, il y a quand même aussi des gens. Et c'est, en plus, pour eux, ils sont surveillés, c'est plus compliqué. Les lettres sont ouvertes, les colis sont ouverts quand on leur envoie. Et j'avais envie de les connaître. Et en même temps, quand on est de l'Ouest, on ne peut pas juger ces gens qui ont dû survivre dans un régime, alors, dès lors qu'ils n'y croyaient pas ou qu'ils n'étaient pas 100% convaincus. C'était qu'une minorité, évidemment, qui était vraiment convaincue, peut-être 10 ou 20% de la population. Ils devaient quand même survivre, ils devaient marcher sur un chemin de crête. Ils savaient que dès lors qu'il y avait trois personnes qui se réunissaient, il y avait forcément un rapport. C'était une société totalement sous surveillance. Et tous mes Allemands, mes amis allemands de l'Est qui ont regardé leur dossier la Stasi après coup, ils m'ont dit qu'ils ont découvert des choses absolument affreuses de gens dont ils n'auraient jamais pensé qu'ils avaient espionné, qu'ils les avaient effectivement espionnés parce qu'ils étaient sous pression, ils faisaient l'objet de chantage. Donc c'est toute cette histoire que je pense qu'était intéressante de raconter en même temps pour parler de ce moment assez inouï, un moment de folie.
Et vos personnages, ce sont des personnages de pure fiction, ce sont des agrégats de connaissances, c'est des témoignages que vous avez recueillis, c'est des intuitions, comment est-ce qu'ils se construisent?
En fait, il y a juste le personnage de la Française, Anna, qui vit quelque chose que j'ai vécu, c'est le seul moment autobiographique, c'est cette nuit passée à Berlin-Est, entre deux trains, un peu malgré nous. À l'époque, ça m'est arrivé effectivement d'être tellement fouillée à l'entrée que j'avais manqué le train et que le train suivant était le lendemain matin. On ne pouvait pas prendre d'hôtel, c'était interdit pour des capitalistes comme nous. En tout cas, on n'avait pas le droit d'aller à l'auberge de jeunesse. Et donc, on a passé notre nuit à déambuler dans Berlin-Est et à rencontrer tous les marginaux, en fait. Tous les marginaux. Donc c'est le seul moment autobiographique. Tous les autres personnages sont arrivés au fur et à mesure, parce que je n'avais pas de plan préconçu, je ne savais pas comment j'allais construire cette histoire, et c'est venu un petit peu spontanément, y compris la construction polyphonique. Et certains sont un petit peu inspirés de quelques personnes, et d'autres, la plupart, sont complètement inventés, en réalité. C'est le plaisir de l'invention.
Alexandre, peut-être sur la doc, parce que j'imagine que en tant que journaliste, vous avez effectivement une certaine un certain rapport aux faits réels. Et pour autant, sur ce personnage-là, il y avait très peu de choses. C'est ce que vous disiez. Donc, il y a à la fois, j'imagine, de se documenter, de s'inscrire dans un temps, dans une réalité historique, peut-être chronologique, de lieux, etc. Et en même temps, d'essayer de sentir, d'investir quelqu'un, peut-être avec sa voix. Comment est-ce que vous avez travaillé autour de ce personnage pour avoir l'impression d'acquérir une forme de justesse, hein, romanesque, tout simplement?
Oui, tout à l'heure, on parlait aussi des anachronismes, et c'était ma hantise que des... Moi, je ne suis pas historien, que donc, des historiens me disent que mon livre était bourré d'anachronismes ou qu'un poilu ne pouvait pas raisonner comme ça, ne pouvait pas savoir ça, ne parlait pas comme ça. Donc, il a fallu beaucoup s'en imprégner. Mon point de départ sur lui, je n'avais qu'une photo, qui est la photo qui a été prise au moment de l'enrôlement, et sa fiche militaire. Donc le jour où il va à Mende pour être enrôlé, et donc je n'avais que ça. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là où il est enterré, dans les Ardennes, où le maire du village de l'époque gardait un peu sa mémoire. Donc le peu qu'il pouvait en savoir, il me l'a donné. Mais après, je suis surtout allé en Lozère, à Mende. Je me suis plongé dans les archives départementales pendant une semaine. Et je me suis nourri, du coup, non pas de lui, puisque sur lui, il n'y avait rien, mais de la vie locale. Parce que il avait plusieurs frères et sœurs, mais j'ai fédéré tout ça dans le personnage d'une sœur. Et je me suis beaucoup imprégné de la vie à l'arrière, donc dans les campagnes où il n'y a jamais eu de combat, mais où les gens ont manqué de tout quasiment, où il y avait le marché noir, où il y avait des délations, où il y avait les soldats qui revenaient en permission et qui après repartaient, et tout ça a été documenté. Donc ça, je l'ai beaucoup, beaucoup accumulé. Et puis, j'ai aussi pris beaucoup sur la bataille même où il était pendant les trois derniers jours, là, des militaires, des soldats, des officiers ont écrit ça. Et on me l'a donné, je les ai retrouvés, et j'ai eu des carnets de soldats qui étaient présents dans cette bataille-là, qui ne parlent évidemment jamais d'Augustin, parce que c'est un soldat parmi tous les autres. Mais, par exemple, il y a une scène qui est au début du livre où je raconte qu'ils arrivent dans un endroit, ils rentrent dans le bâtiment, et le café est encore fumant, et ça les réchauffe, parce qu'ils sont tellement gelés, et il fait un froid épouvantable. Et ça, je l'ai pris, cette scène, elle est vraie, mais j'ai imaginé qu'Augustin faisait partie des soldats qui rentraient dans cette salle-là et qui découvraient le café, et pour lui, c'était un tel bonheur. Il y a une scène au début où il y a, ça c'est vrai, je l'ai documenté, ils sont dans les rues où ils se battent, dans le vrai village où il a été tué, et à un moment, un jeune s'avance un peu plus, et on le voit plus, et il crie « mon lieutenant », et en fait, on comprend que les Allemands l'ont capturé. Et donc cette scène-là, elle est vraie. Et donc moi, j'ai raconté qu'Augustin, enfin, je l'ai raconté par Augustin. Donc il assistait à cette scène-là. Donc la scène est vraie, mais est-ce que lui l'a vue ou pas, ça, on ne saura jamais. Et après, même sur son, quand j'ai rendu mon manuscrit, il avait la version 1. Donc on m'a dit, bon, bah, il faut rebasculer la première personne. Et surtout, on m'a dit, il manque un truc important. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Et il ne peut pas y avoir de romance sans histoire d'amour. Et moi, j'ai dit à l'éditrice, mais j'en sais rien, c'est une histoire d'amour. Et là, elle s'est un peu énervée, parce qu'elle m'a dit, mais t'es définitivement journaliste jusqu'au bout des ongles, et il faut inventer. Alors, il y a des journalistes qui inventent très bien les choses. Hein. Ça, mais moi, j'essaie de ne jamais rien inventer en journal. Enfin, j'essaye pas d'ailleurs, je m'oblige à ne jamais rien inventer dans mes articles. Mais là, elle m'a dit, il faut inventer. Et il se trouve que, quand je suis allé dans le village où il a grandi, j'ai rencontré des villageois qui, de génération en génération, avaient entendu l'histoire d'Augustin, et ils m'ont dit si, il y avait une fille dans le village qui s'appelait comme si, et apparemment, et peut-être bien qu'ils auraient un peu, ils se seraient fréquentés, etc. Et donc j'ai inventé qu'ils s'étaient un peu plus fréquentés, mais là, toujours pareil, j'avais une base quand même de, c'était, si ce n'est véridique, en tout cas probable ou possible. Et là, après, j'ai inventé. Et c'était pour ça, pour moi, le plus dur, c'était d'inventer des choses. Mais du coup, comme je me reposais sur la réalité historique, c'était beaucoup plus facile. Moi, inventer de toutes pièces un univers fantasmagorique ou Harry Potter ou je ne sais quoi, j'en suis absolument incapable. Inventer des propos à partir de la réalité, ça oui, mais sinon le reste non.
Ouais, et en même temps, inventer des propos dans un temps comme celui-ci n'est pas non plus anecdotique. C'est-à-dire que j'imagine que lorsqu'on décrit avec sa voix le froid... il parle beaucoup de la puanteur, il parle beaucoup aussi de l'absence de silence, lui qui aime le silence pour le coup. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, du rapport même à la trouille, enfin je veux dire quelque chose qui est pour le coup vraiment la réalité de la guerre. Il y a aussi à se demander si on écrit juste dans ces endroits-là, non, j'imagine.
Alors, le silence par exemple, ça c'est quand je suis allé passer quelques jours dans son village. C'est vraiment un mot, il n'y a plus aucun commerce, il n'y a plus rien. Et j'ai beaucoup marché pour m'imprégner de ce lieu-là, c'était au mois de janvier. Et c'était vraiment saisissant à quel point il n'y avait aucun bruit à part le bruit des oiseaux. Et je me suis dit, cet homme, sa vie, c'est ça. Ce sont les hauts plateaux de Lozère, c'est le massif central, c'est les bêtes. Et je me suis imprégné de ça pour me dire dans quel enfer il s'est retrouvé, comme quasiment tous, avec les canons, les mortiers, les hommes qui hurlent, tout ce vacarme de la Première Guerre mondiale abominable. Et je me suis dit que ça devait être horrible. Donc là, pour le coup, je me suis effectivement vraiment mis à sa place. J'ai essayé de transposer ça dans mon esprit. Puis après, j'ai inventé des choses, mais encore une fois, par exemple, je suis allé voir un monsieur qui est un grand historien, qui est ancien président de l'Université de Montpellier, et qui est le spécialiste du soldat paysan de la Première Guerre mondiale. Et par exemple, je lui ai dit... pourquoi il y va à la guerre alors qu'il est dispensé? Il m'a dit, en l'occurrence, pour lui-même, j'en sais rien, parce que je ne le connais pas, votre gars, mais je peux vous donner des pistes. Alors il m'a dit, pourquoi les gars qui étaient dispensés sont quand même allés à la Première Guerre mondiale? Alors un, certains, ils voulaient voir du pays, aussi bête que ça. Ça le faisait voyager, ils prenaient le train, une aventure incroyable, etc. Donc c'était un peu ça. Deux, il y avait la propagande, vous inquiétez pas, dans 4 mois, c'est fini, on va les écraser, les Boches. Vous allez revenir avec une jolie médaille, vous serez le héros du village, et ça, évidemment, ça peut parler. Et puis, il y avait le goût de l'aventure, donc ça revient un peu à ça, et puis il y avait surtout la peur du jaune, du traître. Il m'a dit, les gars qui n'y sont pas allés, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais ils n'y sont pas allés, quand les autres sont venus avec une jambe en moins, un œil en moins, ou entre quatre planches, toute leur vie, ça les a suivis. Toi, tu es un traître, lui, pendant ce temps-là, il est au cimetière, ou lui, il lui manque une jambe. Et donc, il m'a dit, ça, c'était une telle pression sociale, qu'ils y allaient quand même. Donc il m'a dit, débrouillez-vous avec ça et imaginez. Et donc moi, j'ai imaginé quelle était les ou la raison qui faisait qu'Augustin y partait quand même. Et après, il y a une scène qui pour moi m'a beaucoup marqué, c'est toujours cet historien, je lui ai dit, pourquoi il n'a pris qu'une seule permission en 4 ans, alors qu'il en a eu plusieurs. Et même à un moment, les officiers ont rendu obligatoires les permissions, parce que les gars n'en prenaient pas assez. Et lui, il en a refusé. J'ai dit, mais pourquoi on refuse une permission? C'est moi qui suis civil, ça me paraît juste une chance de prendre la permission. Et il me dit, mais mettez-vous à sa place. Et là aussi, du coup, ça m'a aidé dans mon travail d'écriture pour dire je. Il me dit, vous vous rendez compte, ce gars, il n'avait jamais pris le train de sa vie. Il n'était jamais sorti de son village de Lozère de toute sa vie. Il se retrouve, en l'occurrence, il était plutôt en Lorraine. Quand il a sa permission, c'est en 17, il est grièvement blessé, et là, on l'oblige à prendre la permission. Il me dit, vous imaginez ce que c'est de prendre le train quand vous êtes tout seul, que vous n'avez jamais pris le train de votre vie, en 1917, pour aller de Lorraine en Lozère. Déjà, ça va vous prendre entre 2 et 3 jours. En tout, vous avez 8 jours de permission, donc vous pouvez compter 2 jours aller, 2 jours retour. Donc sur place, vous allez rester quoi, 3-4 jours. Et puis, il va falloir changer de gare à Paris et traverser Paris tout seul, vous qui n'avez jamais mis les pieds dans une ville. Et ça m'a, moi qui habite maintenant à Paris, je suis originaire d'Annecy, mais ça fait longtemps que j'habite à Paris. Là, pour le coup, ça m'a parlé, moi, quand jeune annécien, j'ai débarqué à Paris, que cette ville me paraissait impossible à appréhender et tout à fait effrayante, ce qui est un peu le cas encore aujourd'hui, mais moins quand même. Et là, je me suis mis dans la peau d'un paysan berger de Lozère qui passe toute l'année dans les alpages avec les bêtes et qui se retrouve à changer de gare à Paris, rien que ça, par exemple. Et je pense que j'ai réussi à m'imprégner de cette terreur, etc. Là, j'ai un peu raconté mon quartier, etc., mais j'ai imaginé qu'il passait par là. Et puis, en fait, on s'approprie tout en voulant que ce soit crédible. Et pour l'instant, personne ne m'a dit que ce n'était pas crédible. Donc après, il y a aussi beaucoup la documentation. Voilà. À quoi ça ressemblait Paris en 1917. Donc là aussi, je me suis documenté. Comment on changeait de gare en 1917. Et puis, une dernière chose que je voulais dire, je me suis imprégné aussi de ce que j'ai pu lire ou voir. Il y a un film que j'avais vu, dont j'ai oublié le titre, qui était avec Nathalie Baye et Laura Smet. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Les gardiennes, voilà. Du coup, je suis allé voir 2 fois ce film, qui raconte donc les femmes à la ferme, quelque part en France, on ne sait pas où on est tout à fait exactement, mais en tout cas, il n'y a pas de combat. Et les frères reviennent. Et je me suis un peu projeté là-dedans quand Augustin, je le fais revenir, parce qu'il est vraiment revenu une fois. Et je me suis un peu inspiré de ces hommes qui reviennent et qui, en fait, quand ils reviennent, ils ne sont pas du tout à leur place parce que la vie civile ne ressemble tellement pas à ce qu'ils voient là-bas et ce qu'ils vont retrouver qu'ils n'arrivent pas à le supporter. Et donc, voilà, j'ai essayé, avec tout ça, de lui construire une psychologie. Et en espérant, j'espère qu'elle est correcte. Et une fois en Lozère, j'étais invité à un salon du livre et une dame est venue me voir. Elle m'a dit, il est vraiment bien votre livre, monsieur. Je dis, merci madame. Elle m'a dit, vous savez comment je m'appelle? Je dis, non, je m'appelle Madame Tribuchon. Ah, et je suis l'arrière-arrière petite nièce, etc. Et elle m'a dit, je pense qu'il était comme ça. Et alors là, c'était un joli compliment.
Ouais, juste une chose, parce que c'est intéressant quand vous parlez de la permission. Il y a une chose aussi, c'est que quand il revient en permission, il y a sa sœur qui lui dit « alors raconte ». Et cette question du récit versus le silence et finalement de l'indicible, c'est quelque chose qui a été très présent dans les soldats qui revenaient du front. Et c'est finalement, le livre est aussi une forme de réponse à ce « alors raconte ». C'est comme si c'était vous qui répondiez à la sœur.
Et ça aussi, c'est documenté. C'est-à-dire qu'on le sait que les gars ne voulaient pas raconter. Ils n'arrivaient pas, en fait. Ou alors, il y avait un côté... malsain, voyeuriste, raconte-moi la boucherie, raconte-moi comment c'est, et puis pendant ce temps-là, je vais te parler de la vie du village. Et souvent, ils n'y arrivaient pas. Et en plus, lui, en tout cas, c'était un taiseux, donc c'était quelqu'un qui ne savait pas parler, qui n'aimait pas parler, et qui vivait... Ça aussi, l'historien dont je parlais tout à l'heure m'a dit, vous vous rendez compte ce que c'est, vivre 6 mois toute l'année tout seul avec des bêtes? Qu'est-ce que ça vous construit comme psychologie quand vous commencez comme aide-berger à 10 ans, et qu'à 10 ans, 12 ans, vous passez 3, 4, 6 mois tout seul dans les montagnes avec vos bêtes, et il n'y a qu'aux animaux que vous parlez, aux moutons et à vos chiens. Et qu'est-ce que ça fait en vous, votre psychologie? Qu'est-ce que vous croyez qu'après vous allez être un expansif et raconter des blagues et savoir parler en public? Bien sûr que non. Et donc ça aussi, je m'en suis imprégné. Je voulais vraiment que le personnage soit cohérent, en fait. Et dans les récits que j'ai retrouvés de soldats, il y en a qui écrivent merveilleusement bien, qui sont lyriques, qui on les imagine là-bas, qui devaient faire un peu le spectacle peut-être. Mais souvent, ce sont des gens qui sont lettrés, qui sont des enseignants, qui avaient des postes dans l'administration, etc. Et j'ai imaginé que le petit berger de Lozère, lui, c'était pas ça. Et il pouvait pas, quand il rentrait à la ferme, il n'était pas à sa place, il n'était plus à sa place. Et il avait qu'une envie, c'était finalement de repartir à la guerre, parce que c'était devenu sa place, en fait.
Et peut-être, Christine, de dire un mot aussi de la question du cinéma, puisque le cinéma traverse aussi. Il a été question d'un film qui a pu inspirer Alexandre dans son travail. Il y a à la fois ce personnage de cinéaste, il y a le film de Wenders, il y a quelque chose qui se joue aussi sur la représentation, sur l'image, sur le. Peut-être vous pouvez nous parler un peu de ça, parce qu'il me semble que le livre est aussi un livre qui pose la question de la transposition, de la représentation, y compris de la ville d'ailleurs, d'une certaine manière, puisque la ville est un personnage en soi dans ce roman.
Absolument, la ville et puis ses habitants, surtout. Oui, en réalité, un des défis qui se posait pour moi, c'était de raconter les scènes justement collectives, où il n'y a pas juste un personnage, mais c'est cette foule qui avance, qui va vers le mur, des deux côtés d'ailleurs, vers quelque chose d'annoncé qu'on ne connaît pas encore. Et c'est là où, en cours d'écriture, je me suis souvenue des Ailes du désir, de ce film de Wim Wenders qui était paru en 87, donc 2 ans avant la chute du mur, qui moi m'avait vivement frappé. J'avais été très sensible par son caractère très poétique. Il est écrit d'ailleurs par Peter Handke, qui est aujourd'hui un prix Nobel de littérature. Donc c'est un côté très poétique, très, très étrange, et c'est surtout deux anges en fait qui planent au-dessus de Berlin divisé, parce qu'on voit le mur, et dont l'un va devenir un homme par amour pour une humaine, une mortelle. Et donc je me suis dit, mais voilà, l'idée, c'est de prendre l'ange qui reste un ange, donc l'ange des larmes, Cassiel, et pas Damiel, qui choisit de devenir homme, et de raconter, en fait, par ce regard qui est un pur esprit, complètement désincarné, qui rentre dans les consciences, qui peut, en fait, se mettre, lui, encore plus dans la peau, donc il est le narrateur parfait, quelque part. C'est comme ça que je suis rentrée en cinéma, quelque part. C'est par vraiment ce film de Wenders. Et à partir de là, c'est vrai que est arrivé aussi un autre personnage qui est ce jeune Lawrence, qui est un étudiant en cinéma, et qui lui-même a une histoire un peu dramatique, puisqu'il a été vendu par la RDA, comme beaucoup d'opposants politiques. Lui-même, en fait, était petit, mais sa mère avait déposé une demande de sortie de la RDA, donc c'était considéré comme quelque chose d'extrêmement, très, tout à fait un acte d'ennemi. Et c'était leur père c'était son père qui les avait trahis, en fait. Et donc ce garçon a besoin d'une caméra pour mettre une distance entre lui et ce qui se passe. On sent que pour lui, c'est quelque chose. À la fois, il veut garder une trace. Il aurait pu être photographe, peut-être aussi. Et d'ailleurs, quand son père traverse le mur, alors que le mur vient de s'ouvrir, il a besoin là aussi de mettre une caméra entre lui et son père, qui sinon, il ne peut pas envisager la rencontre. Et c'est vrai que ces moments très exceptionnels, parfois, ont besoin d'une prise de recul pour se rendre compte de ce qui se passe. Alors, effectivement, soit c'est c'est une image fixe, c'est un photographe, ou alors la caméra permet de se souvenir de ce qui s'est passé. Pour ma part, je suis assez visuelle, donc j'écris aussi en pensant à des images. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre aussi de films qui peuvent apparaître et qui peuvent, pour moi, être tout à fait inspiratrices pour ce que j'écris. En tout cas, je n'ai pas eu tellement conscience en même temps de ce que je faisais. D'avoir un moyen cinématographique, c'était pas présent à mon esprit pendant que j'écrivais. C'est vrai que pour moi, je me sentais plutôt inspirée par le théâtre, parce que je vais très, très souvent au théâtre, et j'adore le théâtre. Et cette manière d'écrire, peut-être avec pas mal de personnages, c'est pour moi plutôt un mode un peu théâtral.
Oui, puis en fragments aussi, d'une certaine manière. C'est aussi des bouts de vie ou des bouts de moments. Vous avez dit que c'était des courts chapitres. Il y a cette idée aussi de la fragmentation du lieu commun, comme disait l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est aussi un endroit où il y a des bouts de vie, il y a des traces, il y a des scories de ce qui s'est produit ou de ce qui va se produire, mais de manière assez non exhaustive d'une certaine manière. C'est aussi ça le livre, c'est-à-dire que c'est des endroits où il reste des trous, où il reste des interstices, où il reste des endroits qui ne sont pas bouchés d'une certaine manière.
Je pense que c'est très important de ne pas tout raconter au lecteur. Le lecteur a besoin lui-même de combler les trous, justement. L'ellipse est très importante et je trouve qu'il faut plutôt retirer d'un texte que rajouter, parce que c'est ça qui fait tout l'intérêt de la lecture. La lecture est prolongée par l'imaginaire propre du lecteur. Par exemple, j'aime bien les fins ouvertes. Je trouve que c'est mieux de pas tout prémâcher et que là, en l'occurrence, la fin est un peu ouverte. Enfin, vous pouvez vous faire votre idée vous-même sur le personnage mystérieux dont il est question dans la dernière scène, même si, pour ma part, c'est assez évident. Mais je trouve que l'ellipse est très importante dans l'écriture. Et un livre doit être tissé de silence aussi, dans lequel le lecteur s'insère et bâtit son propre roman.
Peut-être encore une ou deux choses, et puis je donnerai la parole au public pour qu'il discute avec vous. Alexandre, peut-être sur la question du collectif, parce que ça, on n'en a pas parlé. Et peut-être aussi dans ce que vous décrivez de ce personnage, il y a cette idée-là, c'est-à-dire que la guerre, avec tout ce qu'elle contient de violence, de caractère insupportable, évidemment, est aussi le lieu de la rencontre et quelque part de la camaraderie ou d'une forme de solidarité, de fraternité, notamment avec ce personnage qui s'appelle Ponce, hein, si je ne me trompe pas, qui est lui quelqu'un du dessous, qui est un mineur, donc là où votre personnage est plutôt un personnage de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue là aussi à un moment donné, que vous avez voulu mettre en scène, sans doute pour des raisons aussi liées à la... je sais pas comment dire, à une forme en tout cas de fraternité dans la catastrophe, une manière de se tenir debout finalement dans le désastre. Ces histoires de camaraderie, elles peuvent dire ça, en tout cas, je sais pas si c'est...
Il fallait que... J'avais mon personnage principal, évidemment c'était Augustin, mais il fallait que j'invente des personnages secondaires, donc j'ai inventé ce Ponce qui en fait est une fédération de plusieurs soldats qui étaient vraiment dans cette bataille-là, et ce que j'ai lu dans la documentation, donc de 4-5 gars qu'on revoit, que j'ai trouvé beaucoup souvent dans la documentation que j'ai retrouvée, j'en ai fait un seul, et je me suis dit, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais je me suis dit, il faut que je lui invente un bon copain, son meilleur copain. Et c'est ce copain-là qui va le suivre et qui, après, il y aura des destins séparés. Mais je me suis dit, il faut qu'il y ait une histoire de camaraderie. Il ne peut pas être non plus tout seul dans cette guerre parce qu'il y avait effectivement des histoires de camaraderie qui se passaient, d'horizons différents. Après, je me suis dit, par exemple, est-ce que je peux le faire copain avec un Parisien qui serait fils de banquier ou instituteur, etc. Et là, je me suis dit non, ça ne marchera pas parce qu'en fait, ça ne marchait pas comme ça. On restait beaucoup dans sa caste, dans son origine, dans son lieu d'origine. On parlait patois beaucoup, donc lui, il devait parler un français pas très compréhensible et sans doute qu'on devait s'en moquer. Donc ça, par exemple, je l'ai inventé. Et une fois que je l'ai inventé, ça, par exemple, je l'ai soumis à l'historien dont je parlais tout à l'heure. Je lui ai dit, ça vous paraît crédible? Il m'a dit, mais bien sûr que les gens du sud de la France, avec leur langue, se faisaient moquer par les, entre guillemets, parisiens, parce qu'ils ne parlaient pas le français académique, ils avaient un accent, etc. Et au-delà de ça, j'ai aussi inventé, alors ça je l'ai inventé, et pareil, après on m'a dit, mais en fait c'était vrai, et ça pour le coup je ne le savais pas. Je l'ai inventé, je me suis dit, à tous les coups, il y a un moment où, quand vous faites toute la guerre, et qu'on arrive au bout de trois ans et demi, et qu'il y a tellement de copains qui sont morts, parce que j'ai lu des récits où ils marchent ensemble, et puis il y a un obus qui tombe, et le copain avec qui vous étiez en train de discuter, bam, il vole en éclats, et c'est fini, il a la tête tranchée, et il est mort dans la seconde qui suit. Et je me suis dit, il a dû tellement en voir, tellement en perdre, qu'à un moment, vous refusez d'avoir de nouvelles histoires d'amitié et de camaraderie, et vous rejetez les nouveaux qui viennent vers vous. Donc ça, je l'ai totalement inventé, pour le coup. J'ai inventé que comme c'était un vieux, parce qu'il avait 40 ans, en 18, que les jeunes qui arrivaient, les tout jeunes qui arrivaient en 18, qu'il y en a un paquet qu'on a fait venir en 18 pour la fin de la guerre, devaient aller le voir en se disant, il est vieux, il doit avoir de l'expérience, il est là depuis 4 ans, donc il doit savoir y faire, en gros. Donc je vais me mettre près de lui et je vais en faire mon copain parce qu'il va me servir de bouclier, il va me protéger, il doit savoir se repérer, etc. Et je l'ai imaginé, lui, il est rejetant parce qu'il ne voulait plus d'histoire d'amitié, de camaraderie, etc. Et ça, on m'a dit que c'était un vrai phénomène psychologique dans toutes les guerres, ça, et notamment la guerre de 14, où à un moment, les anciens qui étaient là depuis le début, ils disaient soit j'en veux pas, tu vois, parce que si on devient copain dans 3 jours, lui encore il est mort et ça va encore plus me faire mal, donc je veux pas m'attacher, soit il va me porter la poisse. Il y avait beaucoup de superstitions aussi par rapport à ça. Et donc là, je l'ai imaginé devenant dur, devenant, alors que c'est quelqu'un que j'ai imaginé naturellement bon, et voilà, pour moi, berger, c'est quelqu'un de bon, donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Et là, je l'ai imaginé sur la fin, s'étant tellement endurci, se protégeant, que les petits jeunes qui débarquent, il n'est pas méchant avec eux, mais il les ignore, il les rejette. Et il les rejette pour se protéger, lui. Et ça, on m'a expliqué que c'était vrai, par exemple. Donc, c'est ça qui est assez fascinant dans le processus d'écriture, quand on est dans un phénomène comme ça, c'est qu'on invente des choses, et sans le savoir, en fait, on dit la réalité. Et ça aurait pu être ne pas être le cas. Et ça, je l'ai imaginé. Et après, je l'ai imaginé aussi se projetant, et là, pour le coup, faisant éventuellement des rêves d'après la guerre, avec des copains ou sans les copains, est-ce qu'il allait revenir en Lozère, etc. Et après, dans le dernier chapitre, je bascule, du coup, je reviens à la troisième personne, parce que là, il faut raconter sa mort. On s'attache beaucoup à nos personnages. Quand il a fallu écrire le dernier chapitre, c'était dur, en fait. Ben allez, maintenant, il faut y aller, hein. Il faut qu'il meure. Et il faut raconter sa mort. Et je n'avais pas du tout envie de raconter sa mort, en fait. Et ça, ce chapitre-là, j'ai écrit très vite, comme pour m'en débarrasser, en fait. Parce que c'était devenu douloureux de raconter la mort de quelqu'un qui est vraiment mort 100 ans avant et qu'évidemment, je n'ai jamais connu.
C'est vrai que dans un cas comme dans l'autre, on connaît la fin hein, de vos livres. Hein. On sait comment ça se passe, en effet. Mais c'est une donnée, ceci dit. Mais
les gens pleurent quand même. Les gens, plusieurs personnes m'ont dit, mais ils étaient en pleurs à la fin, en disant, mais il est mort. Mais oui, il est mort il y a 100 ans. Et pour le coup, il n'y a pas de suspense, malheureusement. Mais plusieurs personnes m'ont dit qu'en fait, en le lisant, ils oubliaient qu'il allait mourir. Et ça m'a rappelé une autre expérience d'écriture, ici même, dans cette salle. J'étais venu il y a 3-4 ans pour présenter un livre qui, pour le coup, est une biographie de l'alpiniste Chantal Mauduit, qui est originaire de Chambéry. Et j'ai écrit donc sa biographie. Elle est morte il y a une trentaine d'années, à 33 ans, dans une avalanche. Et pareil, les gens m'avaient dit, en fait, ils arrivent à la fin. Et à la fin, je raconte comment elle est morte. Et les gens qui pleuraient en disant, ah, mais j'avais oublié qu'elle était morte. Et ça, c'est une grande force de l'écriture, je pense, quand vous arrivez à ce que les gens lisent une biographie de quelqu'un qui est décédé 30 ans avant ou d'un soldat qui est mort il y a 100 ans et où rien n'est inventé par rapport à sa vraie destinée. Il est vraiment mort il y a 100 ans, le 11 novembre 1918. Et quand les lecteurs en arrivent à oublier le point de départ, qui en fait est que c'est une biographie ou de quelqu'un décédé ou un hommage à un soldat mort il y a 100 ans. Et ça, c'est assez troublant quand même.
Ouais, puis il y a une dimension parce que finalement, vous évoquiez tout à l'heure le soldat paysan et la manière dont cet historien avec qui vous avez travaillé vous a donné des pistes sur aussi des études d'une certaine manière qui ont pu être plus larges. Mais ce qui est touchant, je pense, et ce qui touche le lecteur, c'est aussi que ce personnage d'Augustin, on peut y mettre des ancêtres personnels, on peut y mettre des histoires. Enfin, il y a quelque chose qui se joue chez le lecteur qui dépasse finalement l'histoire individuelle d'Augustin. J'imagine que c'est une dimension que vous avez aussi en tête quand vous écrivez le livre.
Alors moi, il se trouve que je n'ai pas connu aucun de mes grands-parents, mais la figure tutélaire, c'est mon arrière-grand-père maternel qui a fait la guerre de 14 et qui est mort quand j'avais 11 ans. Il ne m'a jamais raconté sa guerre, mais dans la famille, c'est vraiment la figure, c'est l'aïeul avec une grande majuscule. Ma mère m'a juste dit que quand il est rentré, il vivait à Lyon, à côté de l'atelier des Frères Lumière. Et quand il est rentré en 18, il était le seul jeune homme de toute la rue. Ils étaient tous morts sauf lui. Et donc, j'ai mis beaucoup du peu que je savais de lui dans Augustin. Après, j'ai aussi mis un peu... moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, mais j'ai bien connu les grands-parents de la mère de mes filles, qui sont une famille paysanne de Haute-Savoie. Et donc, ce milieu paysan de montagne, qu'il soit en Haute-Savoie ou qu'il soit en Lozère, finalement, forcément, des gens qui sont nés en 20, donc lui, il était né avant, mais c'est pas très très éloigné, donc je m'en suis inspiré beaucoup pour raconter ce côté de se confronter aux éléments, de pas de pauvreté, mais de peu, et ça allait très bien comme ça, de peur par rapport à la ville, de peur par rapport, de complexe par rapport aux gens qui savent, et nous, soi-disant, on sait pas parce qu'on est juste, entre guillemets, famille de paysans ou de travailler le bois notamment. Et oui, j'ai mis du mien. Et j'ai aussi mis de moi dans... Donc je lui ai inventé un personnage d'instituteur, qui là pour le coup est totalement inventé, mais j'ai raconté une ou deux scènes qui me sont arrivées à moi enfant, et je les ai mises dans l'imaginaire, enfin dans son récit à lui. Et pour le coup, elles me sont vraiment arrivées à moi. Donc vous voyez, on brasse un peu tout ça, et c'est ça qui fait aussi le plaisir d'écrire un roman par rapport au travail journalistique, où là, seul compte la réalité. Et jamais de ma vie, j'espère, je m'amuserai à raconter, à inventer la moindre chose dans mes articles. Alors que là, ça a été dur pour moi au départ, mais vraiment après, c'est jubilatoire de vous dire, bah, tiens, je vais mettre un bout de mon enfance, un bout de grands-parents, un bout de j'imagine, un bout de documentation. Et puis tout ça, ça fait une histoire.
Peut-être dernière chose avec vous, Christine, ce que j'avais dit, qu'on dirait un petit mot, puis après je donne vraiment la parole au public. La route des Balkans, je le disais, c'est un livre qui est beaucoup plus contemporain, d'une certaine manière, même s'il fait référence à des événements de l'histoire qui sont plus lointains, puisque la question du déplacement, de l'exil, de l'exode, hein, presque, est évidemment quelque chose qui court tout au long des siècles. Peut-être juste nous dire un petit mot de ce livre-là, parce que les lecteurs qui ont aimé le premier pourraient y aller, évidemment. Alors, je parlais du discours de Merkel, mais c'est peut-être pas le bon endroit, mais c'est que c'est aussi une espèce de mythologie, comme ça, de l'histoire allemande et européenne, qui vient se coller à 89. Alors, on est évidemment 25 ans plus tard, mais... C'est des points comme ça de l'histoire qui disent beaucoup aussi de l'évolution européenne et de l'évolution de l'histoire. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses ?
Absolument. La route des Balkans aurait pu être en fait la suite immédiate de 3 jours à Berlin. Et à un moment, j'ai séparé les deux récits. Mon idée était de raconter des moments un peu exceptionnels de l'histoire de l'Europe. L'Europe qui est tant mal aimée en France, notamment, qu'on accable de tous les maux. Et ces moments de fraternité, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moments de fraternité. Un mur qui tombe, c'en est 2015. Il y a eu un moment très court, parce que les murs se sont reconstruits à ce moment-là, qui interroge un petit peu les valeurs de cette Europe par rapport à l'accueil de l'autre. Et moi, j'ai été à nouveau très frappée dans ce mois d'août-septembre 2015 sur effectivement cette histoire de la route des Balkans. Là encore, le titre est très signifiant, c'est vraiment la route des Balkans. Il y a vraiment eu des drames qui se sont noués à travers l'image. On se souvient tous de l'image du petit garçon noyé, puis de ce camion frigorifique retrouvé où tant de gens ont été étouffés dedans. Et puis enfin, cette foule qui part à pied de Budapest sur l'autoroute en direction de l'Autriche et de l'Allemagne. Et finalement, l'accueil à bras ouverts d'un très grand nombre d'Autrichiens et notamment d'Allemands qui a étonné, qui a éberlué l'opinion publique du monde entier en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en général, on n'accueille pas à bras ouverts des gens qui viennent de loin, de civilisations différentes, de religions différentes, qu'on ne connaît pas du tout, pour le coup. Parce que c'était pour l'essentiel des Syriens, des Irakiens, des Afghans, à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que c'était un sujet qui n'est pas évident, qui est proche de nous, qui est toujours contemporain. Aujourd'hui, encore, ce sujet est malheureusement extrêmement actuel. Et là aussi, je voulais l'interroger par rapport aussi à notre histoire. Donc, j'imagine, outre... une jeune Syrienne de 17 ans et un jeune Afghan de 17 ans, qui sont les personnages principaux. Une famille allemande, avec notamment une grand-mère qui a aussi un passé de réfugiée en 1945, quand elle avait 5 ans, puisque sa famille venait de Prusse orientale, donc Königsberg, l'actuel Kaliningrad, et qui font écho en fait à aujourd'hui. Voilà, c'était plus difficile à écrire, je pense, que 3 jours à Berlin, parce que un sujet qui, alors c'est pas juste 3 jours, ça s'étale sur une dizaine de jours, mais avec à nouveau une envie de décrypter un petit peu la grande histoire, avec un grand H, notamment qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cet afflux cet espoir en fait qui a été suscité, donc cette histoire aussi des décisions prises par l'administration allemande, puis par les deux chanceliers allemands et autrichiens, ensemble, se mettre un peu dans la peau de ces décideurs politiques, parce qu'en la matière, la décision est très complexe, très très complexe. Sur un plan humanitaire, évidemment, on veut éviter une catastrophe humanitaire, en même temps, on veut éviter un appel d'air. Il y a aussi des constitutions de légende. Pour moi, C'est vrai que quand on dit décision d'ouvrir la frontière, c'est une légende, parce que la frontière était ouverte. On est dans Schengen, quand même. Donc les frontières étaient ouvertes, c'est simplement qu'il y avait à ce moment-là le chef du gouvernement hongrois, Viktor Orban, qui a envoyé par bus entier plusieurs milliers de réfugiés qui étaient coincés jusque-là à la gare de Budapest, avec un ultimatum posé aux deux chanceliers autrichiens et allemands en disant « vous les prenez ou vous refusez de les prendre ?» Et ça, en pleine nuit. Donc évidemment, pour consulter, c'est compliqué, parce que vous savez que, notamment en Allemagne, c'est pas du tout aussi, le pouvoir n'est pas du tout aussi concentré qu'en France. Un chancelier, c'est quelqu'un qui négocie. Il est d'abord, c'est un État fédéral, donc il faut qu'il voit avec ses ministres présidents, il y en a 16. Ensuite, en général, c'est un gouvernement de coalition. Depuis longtemps, c'est donc il faut négocier avec les autres partis qui sont aussi dans le gouvernement. Donc on ne prend pas du tout la décision tout seul. Et là, qu'est-ce qu'on fait en pleine nuit lorsqu'on n'arrive pas à joindre tout le monde et qu'on doit prendre une décision importante? Voilà. Et donc c'est à nouveau, ça m'a beaucoup intéressé d'essayer de me mettre dans la peau. Notamment d'Angela Merkel, mais pas seulement elle. Mais c'est vrai que son passé d'Allemande de l'Est, de fille de pasteur, qui était allée volontairement, parce qu'elle est née à Hambourg, à l'Ouest, il y a 4 mois, avec sa famille, son père, notamment, a décidé d'aller aider les gens de l'autre côté du mur. Elle est née en 54. Donc il n'y avait pas encore le mur, mais en tout cas, il y avait déjà une frontière assez dure. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, pour ceux qui ont lu « Trois jours à Berlin », en fait, un des personnages, c'est Angela Merkel, cachée. Mais bon, vous allez relire comme ça, vous allez... Et il y a aussi Poutine caché, l'officier du KGB. Voilà. Et c'est vrai, en plus. Donc, vous avez une fille de pasteur, effectivement, que vous reconnaîtrez, étudiante en chimie. Donc, ça, c'est Angela. Donc, Angela décryptée, voilà. Mais voilà, c'est une scientifique. Et comment prendre une décision dans des... Il n'y a pas de bonne décision, en l'occurrence. Donc, voilà, cette question-là m'intéressait. Mais bien sûr, le principal, c'était pas elle. C'était quand même ce destin des réfugiés, de ces personnes qui ont... J'ai pris des gens très jeunes, en fait, 17 ans, parce que c'est l'âge de tous les rêves, en principe. C'est l'âge du début de la vie, c'est l'âge de... Tout doit être possible, et là, en l'occurrence, ils vivent des choses terribles. Et d'ailleurs, ils ont une image de l'Europe qui, pour le coup, est déçue. Est terriblement, d'abord, terriblement déçue. Ensuite, donc là encore, il y a une réalité qui n'est pas unique, qui n'est pas univoque, qui est très, très diverse. Donc là aussi, j'ai voulu me mettre dans la peau à la fois des passeurs. Pourquoi font-ils ça? Des différents personnages qui vont ensuite croiser la route de ces réfugiés sur les chemins. Et voilà, ça aurait pu être un même livre avec 3 jours à Berlin, mais je pense que voilà, finalement, c'est devenu deux livres indépendants.
Mais qui se répondent. Oui, Alexandre.
Ouais, puisqu'on en est aux petites confidences, tu parlais de Merkel et de Poutine. Moi, dans mon livre, L'officier qui envoie Augustin à la mort, c'est un de mes anciens chefs. Ouais. Je me disais, il faut vraiment inventer un salaud. Il me dit, oh là là, lui, il est parfait. Et en fait, j'ai même remis une expression qu'il avait tout le temps à la bouche, que j'ai mis du coup dans le livre. Et pour l'anecdote, quand il a lu le livre, il ne s'est pas du tout reconnu, évidemment, parce qu'il m'a dit, il est bien ton livre. Je dis, mais oui, ça, c'est bien ça. Et là, j'ai une petite jubilation personnelle.
Tu ne l'as pas dédicacé?
Non, je n'ai pas dédicacé quand même pas.
Et d'ailleurs, il est là, on l'a invité. Il va pouvoir intervenir sur la fin de ce débat.
Ça m'étonnerait.
Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions pour l'une ou l'autre de nos invités sur ce qu'on a évoqué, sur ce rapport à l'histoire notamment. Oui, allez-y, je vous en prie. Je reprendrai peut-être juste votre parole si elle n'a pas été entendue par tout le monde, mais allez-y, posez votre... Alors, c'est une question par rapport à la journée. Effectivement, je reprends juste très rapidement hein, sur la question de l'Uchronie, puisqu'on en a pas mal parlé aujourd'hui. Madame disait que les deux auteurs avaient plutôt choisi d'être dans une, entre guillemets, reconstitution du fait historique, même si on a entendu qu'il y avait à la fois de l'invention, du montage, de la fiction, de la sensation, enfin, divers matériaux. Est-ce que vous auriez pu imaginer quelque chose de l'ordre uchronique autour de ces histoires-là, ou est-ce que ça vous aurait paru comment dire, déplacé ou contestable?
Il n'y a rien d'indécent en littérature, on peut tout imaginer, c'est le propre de la littérature. Donc bien sûr, l'imagination est au pouvoir, on peut tout changer, on peut prendre des personnages historiques et leur inventer d'autres vies. C'est ce que font avec beaucoup de talent, beaucoup d'écrivains. C'est d'ailleurs une bonne idée.
Il y a peut-être des romans où le mur n'est pas tombé, hein, ceci dit, je ne suis pas un grand spécialiste de l'Uchronie, mais peut-être est-ce un point de départ de certains livres de cet ordre-là.
Il y a bien Philippe Roth qui a raconté que les États-Unis avaient été divisés entre les Japonais et les nazis. Hein, donc,
Mais c'est vrai que ça aurait pu faire aussi pour moi un bon point de départ. J'aurais pu imaginer qu'en fait il n'était pas mort et qu'il repartait soit s'inventer une vie, soit venir à la ville, soit repartir là-bas. Mais en fait, j'ai même pas pensé, parce que comme j'avais vraiment ce point de départ, déjà de l'absurdité de la date de mort gravée sur la tombe, que j'avais un point de départ et j'étais obligé de le faire mourir et de raconter. Je voulais vraiment raconter pour le vrai, là pour le coup, le plus précisément possible sa mort. Et ça a été aussi documenté parce que pour l'anecdote, quand ils étaient en train de. Donc l'armistice donc, a été signé à 5h15 du matin. À 9h30, un télégramme, on leur dit à 11h, le clairon va sonner. Et vers 10h30, tandis que son chef l'envoie porter le message, il y a un autre chef qui dit, mince, on n'a plus de clairon. Parce que tous ceux qui savaient jouer du clairon étaient déjà morts. Ou alors, ils n'avaient plus leur instrument. Or, il fallait le clairon pour que sur les lignes de crête, on entende, parce qu'il y avait un air qui signifie que c'est l'armistice. Et donc, un gars a été missionné en disant s'il reste un clairon, il est par là-bas, va le chercher. Donc, il est parti chercher le clairon. Et ça a été écrit parce que le gars qui est parti a écrit son journal de la guerre et ça a été retrouvé après. Et tous les deux, en revenant vers l'officier qui les avait demandé, enjambent le corps encore chaud d'Augustin. Et ils savent l'heure qu'il est, parce qu'il faut qu'il sonne le clairon à 11h00 et il est 10h50. Donc, comme. Je voulais raconter ça aussi, en fait, ce moment, cette demi-heure, ce quart d'heure fatal, quand ça fait 1580 jours que vous combattez. Et donc, en fait, j'y ai pas pensé, mais dans l'absolu, oui, pourquoi pas, effectivement, on peut tout se permettre.
Ce qui est intéressant, c'est quand même aussi les micro-événements, c'est-à-dire qu'on parlait du point de départ, c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement allemand qui lâche comme ça que c'est dès maintenant que c'est ouvert. Cette question-là, je me souviens d'un livre d'Éric Vuillard où sur 14 juillet où il évoquait la manière dont cet ébéniste-là amène une planche de bois sans laquelle on n'aurait jamais pris la Bastille. Enfin, il y a cette idée aussi du micro-événement par rapport à la façon dont on peut regarder l'histoire de manière plus surplombante. La littérature, elle est vraiment à ces endroits-là.
Oui, c'est la question de la contingence. C'est vrai qu'à chaque moment, nos vies peuvent prendre un million de voies différentes. Et pourquoi, finalement, on vit telle chose et pas. C'est ça qui fascine beaucoup d'écrivains et qui fait qu'on aime bien prolonger ces possibles de différentes manières et vivre d'autres vies que les nôtres.
Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux questions, interventions? J'imagine qu'on pourra vous retrouver à la librairie. Autrement, oui, allez-y, je vous en prie.
Non, il a été tué. Il a été tué. Non, il aurait pu être tué. Vous avez raison. Il aurait pu être tué au retour. Et non, il a été tué en allant porter le message. Mais je vous le dis pas. Mais le message est d'une telle absurdité que ça pouvait très bien attendre une demi-heure de plus. Parce que alors lui, il ne pouvait pas savoir effectivement, mais son officier, lui, le savait très bien. Et ce qui a été documenté, c'est qu'à 11h, quand le clairon donc a sonné. Ça s'est arrêté immédiatement, plus aucune balle. Après, il y a un autre soldat. Alors, on m'a un peu contesté, les gens qui aiment bien chercher un peu des noises, en disant, mais c'est pas lui le dernier, il y en a eu un. Le premier mort de la guerre de 14, c'est le caporal Peugeot. Il y a une plaque dans le métro à Paris, quelque part. Et le dernier, il y a un Renault qui est mort à 11h05. Donc, la guerre était finie. et il est mort en territoire belge, donc il est, alors que Augustin est mort en territoire français. Et en plus, ce Renaud, l'histoire l'a vite oublié parce qu'il est mort d'une balle française. C'est une balle amie. Donc lui, il a vraiment, vraiment pas eu de bol. Donc des gens m'ont dit, oui, vous avez tort, c'est pas Augustin. Et puis comment vous le savez que c'est le dernier? Parce que effectivement, l'armée n'a pas tenu un registre officiel avec. Donc je leur ai dit, ben, à partir du moment où celui qui a sonné le clairon, qui a signifié la fin de la Première Guerre mondiale, a identifié son corps, parce que pour le coup c'était vraiment son copain, l'a enjambé son corps, l'a vu fumant avec la balle au milieu et le sang qui coulait encore du front, on peut penser que c'est un témoignage de première main et qu'il est fiable. Et ils sont deux à l'avoir vu, ils sont deux à l'avoir écrit. Donc voilà, après peut-être qu'un autre, on ne saura jamais, parce qu'on était dans une époque où forcément il n'y a pas la rigueur d'aujourd'hui encore. Mais comme vous disiez tout à l'heure, j'aurais pu aussi imaginer qu'il y en avait encore un autre qui mourrait après. Enfin, on peut tout imaginer, effectivement. On peut, avec pour moi quand même le souci d'être crédible. Voilà, c'était vraiment ça. Et après, on peut aussi créer la science-fiction, mais ça, c'est encore un autre domaine qui, moi, m'est totalement inaccessible. Comme on a dit tout à l'heure, très bien, comme je voulais lui rendre une voix, enfin lui donner une voix, il fallait que ce soit crédible. Et il fallait que tout ça puisse avoir été pensé, dit, vécu, et que, comme m'a dit, je vous dis, ce membre de sa famille, je pense qu'il était comme ça, ben pour moi, c'était le plus bel hommage.
Bien, mais écoutez, on va s'arrêter là. On pourra, si on a des précisions historiques à vous redonner, mon cher Alexandre, si jamais il y a une information sur quelqu'un qui serait mort après Augustin, on peut vous retrouver à la librairie pour vous donner ces petits détails. Merci à tous les deux. Merci Christine.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.